Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Donc, on l'a vu, les élections arrivent et Québec solidaire a réussi à aller chercher Mme Myriam Lapointe-Gagnon comme candidate pour Rivière-du-Loup-Témiscouata. Je ne sais pas si Mme Gagnon va réussir à se faire élire, mais évidemment, ça contribue à ce narratif que veut se créer Québec solidaire pour devenir le champion des familles, malgré le fait que ce soit le parti politique ayant le moins de parents au sein de ces candidats. Donc, c'est l'heure de la rencontre avec mon ami Tom Mulcair. Bonjour, Tom.
Salut, Yasmine.
J'ai l'impression que tous les jours, on fait la longue description des échecs des libéraux fédéraux. Puis aujourd'hui, on n'y échappe pas non plus. Ils risquent de ne pas être en mesure de tenir leur promesse, la promesse forte qui fait en sorte qu'ils ont cette entente de non-agression, disons-le comme ça, avec les néo-démocrates de Jack Meeting.
Oui, un bon papier de la presse canadienne qui essaie de plonger dans cette promesse phare qui a été faite par les libéraux fédéraux de Justin Trudeau pour justifier, pour et au nom du NPD, la signature de cette entente que beaucoup se grattaient la tête, mais disaient, qu'est-ce que le NPD a eu en retour pour le soutien des libéraux pour les trois prochaines années? Alors là, M. Singh, depuis le début, il pointe du doigt, il dit, non, regardez, là, je vais avoir ce super bon programme pour les soins dentaires d'ici la fin de l'année, c'est écrit dans l'entente. Sauf que le problème, c'est qu'il y a personne qui a encore vu l'entente. Trudeau y a fait référence et a lu des bouts. Singh a fait la même chose. Mais tu chercherais en vain une copie de l'entente signée par Trudeau et par Singh. Donc ça, c'est un peu mystérieux dès le départ en termes de forme. Mais maintenant, sur le fond, faut jamais oublier, Jasmine, je sais que tu as fait du gouvernement pendant des années, c'est une chose d'avoir les bonnes intentions, c'est une autre chose de gérer les bonnes intentions, de les faire réalité. Alors, la question ici, c'est qui décide? Ben, c'est le gouvernement fédéral qui a promis de mettre en place un programme, puis je me permets de te donner un exemple contraire. Parce que le gouvernement du Québec fait bien des choses correctement, bien des choses pas correctement, même chose au fédéral, mais une des choses que le Québec sait faire, c'est de mettre en place un programme et de le gérer. Exemple que j'ai vécu, ça c'est notre système d'assurance parentale. Ça c'était poussé très fortement dans le gouvernement Charest par des femmes très solides au sein du Conseil des ministres. Et ça, Charest était plutôt sceptique au début, mais une fois que la décision a été prise, ça a pris à peine quelques mois pour que, un, on établisse et on crée une infrastructure administrative bureaucratique dans une région décentralisée, Rouyn-Noranda, pour le nommer, ce qui était déjà en soi une bonne idée, ça crée des emplois en région plutôt que de toujours garder ses emplois à Québec. Et en plus, en dedans de quelques mois à peine, les chèques sortaient, le programme était mis sur pied, tout marchait. Ottawa est une catastrophe lorsqu'il s'agit de créer des programmes sociaux, des programmes gouvernementaux. Ils ne savent pas le faire. Ils ne sont juste pas bons là-dedans.
Mais ils étaient quand même bons à envoyer des chèques pour la PCU, on va le dire. Il ne les comptait pas trop, il ne savait pas à qui il les envoyait, mais mettre ça dans la boîte à mal, c'était pas pire.
Exactement ce que tu viens de dire. Donc, moi, je ne me plaindrais jamais que le gouvernement fédéral a tassé les préoccupations bureaucratiques lors de la pandémie pour dire, regardez, là, on regardera. Il va y avoir de la fraude, il va en avoir. Et on regardera ça après le cas échéant. Mais l'important, c'est qu'il y a des millions de Canadiens qui viennent de perdre leur emploi. On est dans une pandémie. Ça se peut pas que les gens n'aient pas d'argent pour mettre une épicerie sur la table. Puis, Jasmine, tu connais la statistique aussi bien que moi. La famille canadienne moyenne, c'est une vraie statistique, n'a pas plus que 2 semaines de salaire à la banque. Les gens vivent sur leur carte de crédit. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité ici au Canada. Alors, il fallait faire quelque chose, puis ils ont bien fait. Mais ça, c'était, comme tu dis si bien, t'envoyais des chèques, tu regardais pas à qui, tu regardais pas comment, t'envoyais des chèques, puis le reste advienne que pourra. Ici, il faut que ce soit quand même un peu plus ciblé, parce que t'as le dentiste qui est le prestataire de soins, tu as la famille qui reçoit les soins, qui doit déterminer combien va être remboursé, c'est une assurance. Et ils sont juste pas capables de le faire. Je m'excuse de le dire aussi simplement, mais j'ai passé tellement de décennies dans des gouvernements, autant fédéral, provincial, puis j'ai travaillé beaucoup dans d'autres provinces et aux États-Unis, il y a des choses qui sont en commun dans les gouvernements. Et tu dois, t'as une bonne intention, il faut quand même que tu le gères. Il faut que tu détermines qui décide. Quand ce que tu fais marche pas, il faut faire autre chose. Puis, en administration publique, il y a juste ça. Il y a ce qui marche et ce qui marche pas. Le gouvernement fédéral ne sait pas commander une trombone. Ne sait pas.
Elle coûterait probablement plus cher si le fédéral la commande.
Elle coûterait plus cher qu'un avion de chasse. Puis, des avions de chasse, on n'est pas capable de les commander non plus. On a des navires de la marine qui tardent à venir, qui sont une catastrophe attendue, mais c'était une création d'emplois dans les maritimes, et ainsi de suite. On n'est pas bon. Au fédéral, c'est un gouvernement à répétition. CNN a publié la liste des pires aéroports au monde à la sortie de la pandémie. Numéro un au monde, tu sais, on peut mettre le doigt dans l'air. We're number one. Le pire au monde, l'aéroport Pearson à Toronto, il n'y a pas de quoi être fier. Donc, en termes de gestion, le gouvernement fédéral est une catastrophe ambulante. Et l'exemple le plus récent, c'est l'incapacité de mettre sur place ce fameux programme pour aider les familles dont le salaire est en bas de 90 000 $ à avoir de l'argent pour payer le dentiste.
Mais parlons des conséquences politiques. Là, il y a les conservateurs qui n'ont pas encore de chef, qui vont en avoir un dès le 10 septembre prochain.
Exact.
Jack Meeting se retrouve un petit peu avec une patate chaude entre les mains. Là. Il fait quoi avec ça? Il leur donne un répit, rallonge cette entente-là, le temps de mettre le plan dentaire. Ils doivent faire quoi?
Quelle bonne question. Tu sais, j'ai donné des cours cet été. Il y a des trucs d'été à l'Université de Montréal. Et ça, c'est pour les jeunes, surtout de quartiers défavorisés, et qui viennent à l'université prendre goût à avoir des cours à ce niveau-là. Et c'était vraiment très plaisant. J'accepte de faire ça comme bénévole quand l'université met ça en place. Et c'est très, très agréable. Et il y avait une jeune femme, elle avait pas 15 ans. Et elle me regarde, puis le mâchoire qui tombe. Elle dit, mais... qu'est-ce qu'il a eu, Jagmeet Singh, en retour pour sa signature? Un programme dentaire. Mais Trudeau n'a toujours rien fait en matière de changement climatique et réduction des gaz à effet de serre. Pourquoi il n'a pas insisté là-dessus? Moi, j'étais d'abord très impressionné par le niveau de connaissances politiques. Mais c'est un peu ça la question clé. Il a eu quoi, Singh, en retour? Ben, il a eu pour lui-même 3 ans de paix. On ne le voit pas beaucoup, Jagmeet Singh. Hein? Et il est là, il peut surfer, il peut faire son Instagram, il peut faire ses autres affaires, et il peut dire, regarde, Trudeau m'a promis telle affaire. Mais là, il y a un échéancier qui s'en vient à pas de galop. Là, ils ont signé cette affaire-là il y a quelques mois. C'était un deal, c'était le deal qui pouvait montrer à sa base politique, parce que le NPD a toujours été là pour promouvoir, protéger les programmes sociaux. Et voilà qu'on apprend que la promesse phare est en train de tomber à l'eau. Le cabinet du ministre Duclos refuse ni de confirmer ni d'infirmer. Oh boy! La mise en place d'un plan temporaire. Le ministère était sur la bonne voie. Ah ouais? J'ai hâte de voir ça. Non, je pense que ça va être un échec.
Est-ce que Jack Meade va devoir publiquement déchirer l'entente puis menacer le gouvernement de le faire tomber dans un prochain vote de confiance avec les conservateurs?
En toute logique, c'est ce qu'il devrait faire. Mais là, de cataplasme en cataplasme, ils vont mettre en place un strapontin pour essayer de dire « Ouais, mais c'est pas tout à fait prêt, mais déjà, les familles vont recevoir les chèques, ils vont avoir telle affaire. » Ils vont inventer une patente à casse. Ça, c'est des bons vendeurs d'huile à serpent. Ils vont dire que c'est pas ça, mais c'est ça, puis c'est pas encore tout à fait fini. Il va falloir qu'ils trouvent une manière pour eux autres et pour Singh de sauver l'affaire. Ça, c'est certain.
Ça risque de signer finalement la fin du leadership de Singh au sein du NPD. Si il a signé cette entente-là, il est incapable de la faire respecter et qu'il la maintient et trouve des justificatifs auprès de ses militants pour expliquer son incapacité à la faire respecter, ne pas vouloir aller en politique, ne pas vouloir aller en élection. J'ai l'impression que peu importe le mouvement qu'il va faire, il va tomber de son poste de chef du NPD. Les militants ne vont pas étendre.
Ben, c'est-à-dire que les militants étaient un peu perplexes et je ne suis pas convaincu qu'un autre chef, dont moi, aurait pu vendre aux militants de base de donner leur appui à Justin Trudeau pendant 3 ans. Et oui, ça risque de se corser pour M. Singh parce que les gens disent, mais c'était ça ton point de vente. Tu nous as dit qu'on avait ça en retour pour la signature. On a dit, ça n'aurait jamais eu lieu parce que le NPD n'est pas au pouvoir. Si on a réussi à convaincre Trudeau de le faire, ça peut se justifier. Mais s'il n'a pas la chose principale sur laquelle il a misé pour vendre ça à ses militants et à ses membres, ça risque de se corser pour lui assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que le NPD a toujours eu un caucus assez discipliné. Contrairement aux conservateurs qui coulaient ce qui se passait sur la place publique, contrairement aux libéraux qui ont tendance à sortir les couteaux, puis le NPD, ça se calme, mais ça bourdonne au sein du caucus de ce temps-ci. Pas tout le monde est content de cette situation-là. Puis ça se comprend. Imagine, t'es député NPD, ou candidat qui n'a jamais été député, mais tu regardes les prochaines élections dans 3 ans, ou 2, si Trudeau, parce que lui, il peut toujours tirer la plug plus tôt. Tu vas aller cogner sur les portes, dans ta circonscription, à Winnipeg, ou à Toronto, ou peu importe, Rosemont, et tu vas dire, vote pour moi, Trudeau et ses libéraux, c'est une gang de pas bons. Puis là, les gens vont te regarder et dire, excuse-moi, là, mais c'est toi qui les as gardés là pendant 3 ans. Comment ça se fait que tu dis maintenant que c'est une gang de pas bons? Pourquoi tu les as maintenus au pouvoir si c'est une gang de pas bons? C'est ça qui risque d'être le plus compliqué pour eux.
À qui ça profite le plus chez les conservateurs, un Pierre Poilievre ou un Jean Charest, le fait que cette entente-là devient de plus en plus fragile et qu'on pourrait partir en élection plus tôt que ce qui était prévu dans cette entente?
Mais moi, j'ai l'impression que Charest a un bilan vraiment qui peut montrer qu'il sait gérer et il sait obtenir un résultat. Je viens de donner un exemple clair de l'assurance parentale. Donc, Charest risque de pouvoir dire, au-delà de toute autre considération idéologique, ça prend quand même un gouvernement qui sait démarrer la voiture. Et ça, avec les libéraux, on n'a pas ça. Puis c'est vrai, c'est pas une question de politique, c'est une question d'administration. Le gouvernement actuel est un des pires et des plus faibles que j'ai vu dans ma carrière de longue date. Pour ce qui est de Poilievre, ça lui permet quand même de faire son truc absolutiste qui fait à tout bout de champ, disant, oui, les gatekeepers, les gens qui sont là, gang de pas bons, moi, je vais tout changer ça, je vais vous rendre les gens les plus libres au monde. Au-delà de cette rhétorique qui mène nulle part, il va falloir que lui montre qu'est-ce qui changerait concrètement. Moi, j'ai un souvenir de Pierre Poilievre comme ministre, parce que j'étais chef de l'opposition, j'étais face à lui. Et ce que lui, il avait tenté de faire avec la loi électorale pour favoriser le Parti conservateur, pour rendre ça le plus difficile possible pour les gens de voter, et surtout les gens au rang inférieur de l'échelle dans la société côté socio-économique, ça, il voulait rendre ça très difficile de voter. C'est les gens qui étaient les moins bien placés qui allaient écoper, les gens donc les moins aptes à voter conservateur. Ça, c'était le plan de Pierre Poilievre. On a réussi à le battre là-dessus. Il était obligé de reculer. C'était trop gênant, même pour Stephen Harper. C'était trop grotesque, même pour Stephen Harper. Donc, c'est le même Pierre Poilievre qui s'amène maintenant, parce que ça a l'air que les carottes sont cuites. Moi, je veux bien que les gens autour de Charest disent, on a un passage possible telle manière. Moi, je le vois plus mathématiquement où est ce chemin de Charest. Depuis qu'ils ont évincé, sur des prétextes tellement faibles, Patrick Brown, je vois pas le chemin de Charest. Mais en termes de qu'est-ce qui peut faire quoi, Charest a une très grande longueur d'avance sur Poilievre en termes de réaliser des choses concrètement en termes d'administration publique. Le bilan de Poilievre là-dessus, c'est vide.
Et pour conclure, Tom, j'aimerais t'entendre sur est-ce que cette entente-là et sa fragilité va accélérer la réflexion de Justin Trudeau sur son avenir politique?
Moi, je pense qu'il est un opportuniste. Il a son nez toujours dans le vent. J'ai lu un article publié au cours des derniers jours dans un truc académique à l'Université de Toronto par un jeune qui a fait son doctorat à l'Université McGill. Il s'appelle Christopher Orr. Et lui, il regardait l'époque de Pierre Trudeau sur l'environnement, puis il montrait que Pierre Trudeau avait des bonnes idées progressistes, environnement, développement durable, avant même que le terme soit consacré. Il a dit, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils avaient des bonnes intentions, une excellente analyse, mais ils n'ont jamais réussi à faire ce qu'ils promettaient. C'est un peu ça, Justin Trudeau, son bilan. Il commence sa 8e année
oui.
À l'automne. et au mois d'octobre. Et le bilan est tellement mince. Je pense que tantôt, Yasmine t'a donné... j'ai un bruit qui s'appelle Jasmine, alors parfois ça sort comme ça, excuse-moi.
Il n'y a pas de problème.
T'as donné l'exemple de ce qu'ils ont bien fait, s'occuper de la pandémie. Je pense qu'ils vont toujours pouvoir dire, les vaccins, la pandémie, ils ont fait une bonne job. Je pense que tout le monde qui est objectif va concéder ça. Mais pour le reste, là, le bilan est assez mince. Beaucoup de promesses, très peu de réalisations. Est-ce qu'il va... Moi, je connais Trudeau. Tu sais, tu finis par connaître ton adversaire. Tu passes du temps avec, tu connais un peu le caractère. Trudeau, c'est un gars par nature. Ah oui, tu me dis que je peux pas faire ça? Garde-moi bien aller. Si les gens disent que t'as aucune chance contre Poilievre, ouais, il va vouloir se mesurer à Poilievre. Par contre, l'été est un peu plus froid au sein du Parti libéral fédéral. Reste de lui dire, garde, dans les...
Prends un grand respire.
Dans le théâtre, on a Chrystia Freeland qui est toute prête et Mark Carney. Il y en a d'autres. Peut-être Champagne va s'essayer. Et ça risque. Moi, j'ai l'impression qu'il va lever l'ancre d'ici un an.
Probablement plus tôt que tard. Tom Mulcair, toujours un plaisir.
À bientôt.
On se retrouve demain.